notre 17e talk, le Curiosity Club Marseille a eu l'opportunité de recevoir la brillante Sylvaine Falican. Réalisatrice, actrice et metteur en scène, elle nous a conté son parcours et chemin avec brio. Dans un lieu toujours aussi sublime, le bunker des Calanques. Mille merci à Caroline et Jean-Christophe de nous avoir accueillis de nouveau chez eux. Merci à Very Good Truck de nous avoir copieusement nourris. Et merci à notre partenaire de toujours, Lilé. Belle écoute!
Bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est une première pour moi ce soir aussi de parler de soi comme ça, c'est-à-dire pas que de mon travail, mais aussi de qui je suis, d'où je viens et comment je suis arrivée là. Donc c'est une première expérience, donc soyez tolérants, tolérantes avec moi. Après, j'aime beaucoup parler, je fais beaucoup de discrétion, donc si jamais je me perds, n'hésitez pas à me rappeler où est la trajectoire. je suis hyper contente d'être ici, aussi parce que le film où je vous parlerai du coup à la fin du parcours et à la veille de sa diffusion, donc c'est une vraie première pour moi de commencer à parler à des gens de ce travail, autre que les gens qui ont contribué à ce projet et aussi les gens qui sont dans mon entourage, quoi. Donc c'est un super entraînement aussi, donc merci pour l'occasion, la rencontre et le lieu, le cadre magique. Voilà. Donc moi je m'appelle Sylvaine, j'ai 36 ans, je suis réalisatrice, je suis autrice de mon film du coup. Je viens de mettre en scène aussi, je suis comédienne et j'ai aussi fait beaucoup d'assistants à la mise en scène et de la production. Donc voilà, j'ai un peu touché à beaucoup de postes autour de la fabrication d'un film. J'ai grandi en Pays de la Loire, dans un petit village de 1500 habitants. Je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec la création, mais vraiment rien. Mon père est transfuge de classe, donc il est issu d'une classe populaire. Mes grands-parents étaient paysans. Mes deux parents sont soignants, infirmiers. Mon père est devenu cadre, donc a grandi l'échelle sociale, on va dire. Mais du coup, j'ai grandi à la campagne, voilà. Dans une sorte de copropriété, mes parents avaient acheté leur maison avec leurs meilleurs amis à l'époque. Donc on était deux familles et six enfants. J'étais une enfant hyperactive, donc il fallait que je fasse beaucoup de sport et beaucoup de choses pour pouvoir calmer un petit peu mon énergie. J'étais relativement douée à l'école, ce qui signifie en général un grand ennui, et c'est pas forcément simple. Et j'étais une enfant un peu étrange aussi, donc j'avais pas beaucoup d'amis. Ce qui est aussi, je pense, une clause importante en fait à un moment donné, parce que ça amène à penser différemment, à se créer des imaginaires, à fuir dans d'autres circuits aussi. Et aussi parce que l'école est un système, je trouve, extrêmement répressif et extrêmement compliqué. Donc pas forcément, absolument pas fait pour les différences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de classe, de genre, de personnalité, de handicap, enfin, de plein de choses, voilà. Donc ça a été compliqué longtemps pour moi, et dans mon parcours, il y a une rencontre, j'ai 12 ans, je suis en classe de français, et à l'époque, on nous emmenait au cinéma trois fois dans l'année, dans un cinéma, et j'avais une super prof de français qui, elle me paraissait être vachement grande à l'époque, mais je pense qu'elle sortait juste de son CAPES, et c'était probablement sa première ou deuxième année anciennement. Mais elle avait une manière de nous transmettre, en fait, la manière de regarder un film et d'en parler. Et je me souviens très bien d'être là et d'être gamine et de savoir que ce langage-là, je le comprenais. Et pour moi, ça a été une première vraie clé, en fait, et une première porte qui s'est ouverte parce que, enfin, il y avait un endroit où j'avais l'impression que la manière dont je réfléchissais et que je pensais, elle était entendue, comprise, et surtout qu'il y avait un échange, en fait. Et donc, du coup, ça m'a vraiment, genre, agrippée. Mais c'est pas devenu non plus quelque chose où je me suis dit « Oh, j'ai envie de faire ça et tout ». Pas du tout, en fait. Sans nous poser la question de ce qu'on veut faire dans nos vies, ça commence, on a 6 ans, on est en école primaire, c'est le premier jour. Moi, j'ai trouvé ça toujours tragique, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, j'inventais des trucs pour faire plaisir à tout le monde. Mais j'ai jamais trop su, en fait. Et en continuant, ça a été un peu la même chose, en fait. Le lycée, j'ai fait un parcours ES classique. J'ai eu un bac avec une super mention. Je me suis un peu perdue dans les affres de l'adolescence, je pense, avec produits, alcool, tout ce qu'on veut aussi. J'ai beaucoup séché. J'ai organisé les manifestations pour le CPE. Enfin, j'ai fait tout mon possible pour ne pas avoir ce bac, que j'ai fini quand même par avoir. Mais avec toujours cette idée de toujours pas savoir quoi faire, en fait. Enfin, et cette pression qu'on nous dit, en fait, il faut aller où, quelle est la direction, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu vas. Et on nous propose, il n'y a pas d'alternative, en fait. Donc, pour moi, ça a été aussi apprendre à accepter qu'on demande de nous figer à un endroit où, en fait, il faudrait pouvoir ouvrir des terrains de recherche, d'exploration, en fait. Et ça, on ne l'a pas, enfin, je trouve qu'on ne le propose pas, en fait, dans nos sociétés aussi. Donc, il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes et chercher par soi-même, ce qui amène des trajectoires qui ne sont pas forcément très droites, dont la mienne. Et donc, après le bac, je me suis inscrite en fac de lettres. J'y suis allée une fois. Ensuite, j'ai travaillé dans un bar pendant un an. J'ai pris le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. Je ne savais toujours pas. Donc, pour répondre à la pression, je dirais, faille familiale et sociétale, de continuer cette fameuse ascension sociale que mon père avait entamée aussi. Et parce que j'avais l'impression que je portais cet héritage et qu'il fallait que je rende hommage en fait à ce que mes parents avaient fait, je me suis inscrite, enfin j'ai été prise en Hippocagne, donc j'ai fait une année de prépa littéraire. Ça m'a pas du tout convenu non plus parce que c'est un système non plus. Moi j'apprends pas comme ça, donc c'était compliqué aussi. Donc en étant toujours aussi perdue de pas savoir où on va, on fait comment on fait, et ben on fuit. Donc je suis partie à l'étranger. Je suis partie à Londres au départ parce que pour moi, j'étais assez douée en langue, mais il y avait vraiment cette idée de... En fait, les langues... pour moi, la langue étrangère, c'était un endroit où je n'étais pas obligée de dire « je » comme en français. Donc ça veut dire qu'on peut se réinventer et on peut trouver... On peut aller explorer d'autres parties de nous-mêmes, en fait. Et moi, c'est quelque chose... Enfin, le mimétisme, ça a toujours été quelque chose que je savais très bien faire, m'adapter. Je pense que j'ai appris ça, évidemment, de mes parents qui sont adaptés aussi à des systèmes sociaux qui n'étaient pas les leurs. Donc, du coup, plonger dans une langue étrangère, pour moi, c'était genre tellement bénéfique parce que j'avais l'impression de respirer pour la première fois. Et donc, c'est pour ça que je suis partie aussi, parce que c'était une belle fuite en avant, mais en même temps qui m'a offert, en fait, un terrain de jeu qui était plutôt... plutôt novateur et aussi plein de réponses, en fait. Donc voilà, je suis restée presque une année à Londres. J'ai voulu faire mes études, enfin faire des études de sciences politiques à Londres. Il s'avère que c'est une des capitales les plus chères d'Europe. Donc comment vous dire qu'en travaillant 6 jours par semaine, plus s'imaginer faire des études, j'ai fait, c'est pas possible. Donc je me suis rappelée, il y a un souvenir, quelque chose qui était en moi qui est revenu quand j'avais 14 ans. Je suis allée à Berlin avec ma famille et je me souviens très bien de m'être dit un jour j'habiterai ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des territoires qui vous appellent comme ça. On ne sait pas très bien pourquoi c'est intuitif comme ça, mais chez moi c'était comme ça. Et du coup, j'ai fait mes valises de Londres et je suis arrivée à Berlin en janvier 2008. Il pleuvait, il faisait gris. C'était horrible. Je ne parlais pas un mot d'allemand. J'étais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh my God. Et voilà, j'ai appris l'allemand rapidement. Parce que je me suis inscrite en fac et ils demandaient à ce qu'on ait un certain niveau de langue, donc il fallait avoir réussi ce fameux test de langue. Donc en 6 mois, j'ai gratté tout ce que je pouvais le matin dans les cafés, livres de grammaire, j'ai jobé à côté, enfin, j'ai arrêté de parler le français, j'ai tenté d'arrêter de parler l'anglais aussi pour pouvoir me mettre un petit peu dans ce mood-là. Et puis j'ai réussi ce test et je suis entrée en fac, j'ai fait des études de philo, de psycho et d'histoire de l'art, donc autant vous dire que mon niveau a progressé très rapidement, même si je comprenais rien du tout. Je pense que j'ai passé un an à flotter complètement au-dessus de la réalité, mais c'est quelque chose que je voulais, en fait. Je voulais cette plongée totale, je voulais cette perte de repères, je voulais cet abysse, parce que je savais que c'était aussi comme ça que j'allais maîtriser quelque chose de la langue et que j'allais, je sais pas, peut-être rattraper ce que je pensais que je devais rattraper dans un pays étranger. Et voilà. J'ai, suite à ces études que j'ai... Donc après la licence, j'ai quand même pendant... Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'aime apprendre, mais j'aime pas apprendre dans un système comme ça. Donc je savais que j'allais pas continuer. Et donc du coup, moi je voulais des choses pratiques. Je sentais que faire, c'était ce qui m'attirait en fait. Comment faire? Comment est-ce qu'on se met à faire? Donc j'ai de contact en contact, j'ai rencontré... Oui voilà, je me rappelle, il y a des points dans la liste de par où on peut passer pour le talk de ce soir. Je me les suis imprimés dans la tête si jamais je me perds. Donc, j'en ai un. Rencontre. À cette époque-là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jan Ole Gastein, qui est un réalisateur allemand, qui était à l'époque, qui n'avait pas encore fait son premier film à l'époque, avec qui j'ai eu une relation intime. Et en fait, ça a été pour moi l'entrée dans le monde du cinéma en Allemagne, parce que du coup, j'ai rencontré des gens via qui il est. et notamment quelqu'un qui s'appelle Wolfgang Becker, qui a fait un film qui s'appelle Goodbye Lenin, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est devenu mon mentor, en fait, enfin, qui m'a accompagnée pendant 10 ans en Allemagne. On a eu une amitié très forte, mais très intense aussi, et problématique sur la fin. Mais au début, ça a été vraiment une porte d'entrée pour moi, parce que tout d'un coup, j'étais avec des gens qui faisaient des choses dont je ne m'imaginais même pas que j'allais pouvoir entrer en relation avec... Enfin, j'allais pouvoir frotter à ça un jour, en fait. J'étais là, waouh, le monde du film, le monde du théâtre, c'était entrer par la petite porte, et en même temps, entrer par cette porte aussi où j'étais la copine d'eux. Et ce n'est pas si simple que ça, parce que du coup, on a aussi cette étiquette d'être l'accompagnante. Et celle... J'étais beaucoup plus jeune en plus, j'avais des écarts d'âge assez forts et tout. Donc il y avait un peu ce truc de comment je vais faire ma place en fait sans devenir femme d'eux. Moi j'étais pas, c'était hors de question en fait. Enfin, mon orgueil me racontait quand même que c'était pas possible, même si c'est par là que ça a commencé. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à être assistante à la mise en scène dans un grand théâtre national à Berlin, qui m'a donné très envie de jouer, parce que il y a eu un moment décisif. Je suis allée voir une pièce à la Schaubühne, qui est un théâtre à l'ouest de Berlin très réputé, d'un metteur en scène qui s'appelle Thomas Ostermeier, et c'était Hedda Gabler. Je me rappelle très bien d'être assise là, et j'ai pleuré, j'ai eu de la tristesse, j'ai été en colère, enfin, j'ai traversé énormément d'émotions. Et ça m'a permis, moi qui je suis très analytique comme personne, donc les émotions c'est toujours quelque chose que je regarde un peu de loin, parce qu'il y avait beaucoup de distance entre moi et ce que je pouvais ressentir, mais à ce moment-là, ça m'a complètement connectée en fait avec ce que je ressentais, et j'ai trouvé ça ultra transcendant comme expérience, et je me suis dit, ah, à cet endroit-là, il y a peut-être quelque chose qui, moi, va m'aider ou va me faire du bien, ou je vais trouver ma place, quoi. Et donc du coup, j'ai voulu, donc je suis rentrée dans ce monde du théâtre là, j'ai voulu jouer, j'ai voulu être comédienne. C'est un désir qui est né, qui était assez fort d'ailleurs. J'ai été refusée dans les écoles en Allemagne, donc je suis allée en France, j'ai fait une école de théâtre privée à Paris pendant 3 ans, qui n'est pas une super école, c'était pas une super époque de ma vie non plus. mais j'ai suivi, en fait, ça faisait 3 ans et demi que j'étais à Berlin, j'étais habitée par ce désir, il fallait y aller, en fait, il fallait tenter cette route-là. Sauf que les expériences accumulées à Paris, qui n'est pas du tout une ville pour moi, enfin, qui n'était pas, je l'ai senti tout de suite, et du coup, j'étais pas très bien non plus. J'étais dans un décalage social total, parce qu'à l'école, je traînais avec des gens qui faisaient partie de ce milieu-là. Enfin, je sais pas, je me suis un peu pas du tout sentie à l'aise. Et puis, Berlin me manquait très, très fort. Et donc, au bout de ces 3 ans, je suis rentrée en Allemagne, à Berlin. Et à ce moment donné-là, on m'a proposé de commencer à jouer. En fait, j'ai commencé à être castée pour les films. J'ai commencé à travailler aussi derrière la caméra, parce qu'on m'a toujours dit oui, peut-être que devant t'as ta place, mais derrière c'est sûr, donc regarde aussi ce chemin là donc j'ai commencé à faire de l'assistante à la mise en scène, j'ai commencé à jouer, j'ai eu deux rôles principaux au cinéma dans des productions assez indépendantes aussi. Donc imaginez-vous, on parle de cinéma, de théâtre, mais c'est toujours la galère, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'aussi, faut comprendre ces mondes-là comme étant... Il y a des petits milieux qui marchent très bien, qui fonctionnent très bien avec les gens qu'on élit, à qui on donne des noms et des têtes dont on parle dans les journaux. Puis après, il y a une masse de gens qui tournent autour et qui travaillent autour de ça et qui essayent d'en vivre et de survivre ou d'essayer de se débrouiller, en fait. Donc, c'est quand même très complexe, en fait, de... Quand on en parle, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce côté-là qu'on ne regarde pas, en fait. De ces gens qui ont des existences précaires, mais qui sont heureux. Attention, il n'y a pas de victimisation là-dedans, mais c'est juste que, voilà, c'est très sélectif, c'est très particulier aussi comme milieu. La concurrence est rude, c'est féroce aussi, c'est pas forcément très sympa non plus. Donc, voilà, donc tout ça, c'était toujours un peu. C'était, je ramais et tout, mais j'ai pas lâché prise, en fait, pour faire tout ça. Avec dans l'idée qu'un jour, les choses iraient peut-être un petit peu plus simplement. Et de fil en aiguille, comme ça se passe beaucoup dans ces milieux-là, on rencontre quelqu'un qui nous amène à rencontrer quelqu'un, et puis on travaille, et puis on fait un autre film, et puis on se retrouve à une autre position, et puis on est emmené là, et puis on fait des choses. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Mariam Zahré, qui est une actrice et réalisatrice allemande, qui a une histoire un petit peu particulière. On a travaillé ensemble sur un film où j'avais le rôle principal, elle jouait ma meilleure amie. Et 3 mois plus tard, elle m'appelle, elle me dit « Écoute, je voudrais proposer quelque chose. Je t'en ai pas encore parlé parce que c'est très intime et tout, mais voilà, est-ce qu'on peut se voir ? Et donc je la rencontre et là elle me dit je suis en train de faire un film documentaire, ça raconte mon histoire. Elle est née en Iran dans une prison à Téhéran qui s'appelle Evin, dont on entend beaucoup parler, qui est une prison pour les prisonniers politiques qui a une habitude de la torture assez horrible. Ses deux parents étaient prisonniers politiques après l'arrivée du Shah au pouvoir, après la chute du Shah au pouvoir, pardon, après l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Et sa mère était enceinte de 5 mois quand elle s'est fait emprisonner et a accouché de Mariam en prison. Elles ont fui l'Allemagne 2 ans plus tard, après avoir été libérées. Sa mère est devenue une grande psychologue allemande et une politicienne chez les Verts. Elle est aujourd'hui la mairesse de Francfort, dans le sud de l'Allemagne. Et Mariam est devenue une grande comédienne, actrice, réalisatrice. Sauf qu'elle n'a jamais su qu'elle était née en prison jusqu'à ses 30 ans. Parce que ça a été dit une fois vite fait dans son enfance, mais comme un acte manqué de la part de sa tante. Et qu'en fait, à 30 ans, elle découvre dans un article de journal que sa mère a donné une longue interview à une journaliste pendant un procès symbolique des crimes contre l'humanité commis par le régime iranien à La Haye, que sa mère raconte donc son accouchement en prison. Elle découvre ça dans le journal, elle se dit « bon, va peut-être falloir que j'y aille, voir de ce côté-là ». Donc elle décide de faire un film documentaire. Donc elle part à la recherche de son histoire, de ce qui s'est passé pour son père et pour sa mère, son père ayant passé 7 ans en prison, qui arrivait beaucoup plus tard en Allemagne. Et son histoire, elle, qu'est-ce qu'elle porte du transgénérationnel, quelle transmission du trauma est arrivée sur ses épaules aussi à elle, comment est-ce qu'on aborde les secrets de famille, le déni, les non-dits surtout aussi, et comment on s'engage dans cette recherche-là. Et elle me propose de l'accompagner, d'être son bras droit, donc de faire toute la partie production, toute la partie dramaturgie, toute la partie assistante à mise en scène, et j'accepte. Et du coup, on s'embarque pour une aventure de 3 ans, qui a été très formatrice pour moi, évidemment, parce que ça touchait à beaucoup de choses que je savais faire, ça touchait à beaucoup de cordes de ce que j'étais qui me parlaient aussi. Mais ça a été très lourd et dur, parce que du coup, voilà, c'était aussi l'omniprésence de la mort, de la torture, des gens qui n'avaient pas eu de place, des pas enterrés, des assassinés, des secrets de famille, des traumas aussi, mais quelque chose que moi je savais porter en fait. Je sais pas, Mariam, je pense qu'elle l'a senti, et c'est aussi pour ça qu'elle me l'a demandé, c'est aussi pour ça que j'ai accepté. On savait qu'on pouvait le faire ensemble. Et donc on s'est embarqué dans cette aventure-là ensemble, et ça m'a emmené au documentaire, parce qu'avant j'avais fait uniquement de la fiction, que ce soit devant ou derrière la caméra. Et du coup, de ce premier film documentaire qui a été, donc, comme je disais, moi j'ai passé 3 ans à le faire, à l'accompagner entre le moment donné où on s'est lancé dans les premiers tournages jusqu'à la première. Il a eu sa première à la Berlinale, il a été primé, il a eu le prix du meilleur documentaire en Allemagne. Enfin, ça a bien marché, on va dire. Et le film est très beau. Mais du coup, cette rencontre m'a permis de, je sais pas, c'est lentement, j'avançais vers cette étape de réaliser moi-même que j'avais envie de faire des films, que ce qui m'intéressait, c'était la construction, que ce que j'aimais, c'était la pluralité des étapes de fabrication, en fait. Parce que pour quelqu'un qui s'ennuie vite, ben, qui a une curiosité comme ça, c'est bien, en fait, ça. C'est-à-dire qu'on change toujours d'endroit, on change toujours de gens, on change toujours de méthode de travail, on change toujours de système. Et surtout, moi, je voulais travailler je crois que j'aime les rapports avec les choses dures. Je dis pas ça dans un sens négatif, mais dans le sens, ça me pose pas de problème. Enfin, j'ai un nez pour ça. Voilà. Je crois que j'attire les gens qui vont pas très très bien. Ça m'est arrivé longtemps. Ça a changé depuis, mais voilà, j'ai pas de problème avec les. Je sais pas. Avec le trauma, avec les sentiments qui sont rapportés, avec, je sais pas, il y a ce sens un peu psychologique chez moi aussi, et du coup, là, j'ai trouvé un endroit où tout ça pouvait se déployer, en fait. Et du coup, les producteurs de ce film-là, les Tarnowski, qui sont un couple, Ira et Alex, sont devenus des amis, et eux, ils produisent ces films-là. Donc, j'ai enchaîné celui d'après, j'ai fait un accompagnement aussi d'une jeune réalisatrice dont les 4 grands-parents sont survivants de la Shoah, qui s'interrogeait aussi sur le transgénérationnel, sur qu'est-ce qu'on porte en tant que 3e génération, comment ça se transmet, qu'est-ce qui se passe quand les choses ne sont pas dites ni digérées, comment on gère le rapport au trauma dans une société qui ne veut le cacher derrière des façades, derrière des musées, derrière des choses. Voilà, donc j'en ai fait un autre, et ça a été aussi, enfin pas aussi intense, mais autrement intense. Mais du coup, j'ai continué, moi j'ai eu le sentiment de continuer ma formation aussi, et de continuer cette quête en fait de sujets, de choses à étudier, de gens à comprendre en fait, parce qu'on s'approche très très près, quand on fait des films là, de nœuds sociétaux en fait. Où est-ce qu'on parle, où est-ce qu'on parle pas, on rentre dans les intimités des gens. Donc, en rentrant dans les intimités des gens, on raconte évidemment qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal, en fait. Donc, ce va-et-vient entre l'intime, et entre le public, le privé, le politique, l'intime, tout ça, c'est des sujets qui, moi, me parlent beaucoup. Et donc, où j'ai trouvé, du coup, un peu ma place, quoi. Et suite à ce film, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre des choses très lourdes. J'ai eu l'impression que je portais des histoires qui n'étaient pas les miennes, que j'étais dans un pays qui n'était pas le mien, qu'est-ce que je faisais là, ça faisait 10 ans que j'étais en Allemagne, je ne parlais plus un mot de français, et j'étais là, oh là là, il va peut-être falloir changer de système. Et vraiment, genre, comme un cercle qui se terminait, quoi, comme une boucle que j'avais terminée, et du coup, je me suis dit, c'est le temps d'aller ailleurs. Donc, j'ai fait une... J'ai été aussi en psychanalyse à ce moment donné, je suivais une thérapie corporelle, et à chaque fois que j'allais voir ma thérapeute, je prenais une décision. Donc j'ai quitté mon appartement, mon job, la personne avec qui j'étais, ce pays, j'ai fait mes valises, je suis partie. Et je suis partie sans savoir vraiment ce qui allait m'arriver. Je voulais retourner dans un pays francophone. Je m'étais dit, je rentre, je ne sais pas quel mot utiliser, en France. Mais où, c'était un peu la question, parce qu'évidemment, hors de question de revenir d'où je venais. Paris, ça ne m'avait pas plu. Et puis intuitivement, je ne sais pas, j'ai pensé à Marseille, je ne connaissais pas du tout Marseille, j'y ai passé 24 heures dans ma vie, je ne connaissais rien du sud de la France, je n'avais pas non plus vu de carte postale ni quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'était juste... je crois qu'il y avait l'idée d'être en bout de territoire qui me plaisait, parce que c'est rassurant d'être au bout d'un territoire, parce qu'il y a l'inconnu qui est devant, il y avait l'idée de la mer, il y avait l'idée, après avoir passé 10 ans avec des hivers qui durent 6 mois, en fait... les dépressions, manque de lumière en janvier, c'était terminé. Donc je m'étais dit, ah oui, le soleil, ça peut être pas mal. Voilà, donc j'ai décidé de rentrer en France et de venir m'installer à Marseille. Et ça a pris une année supplémentaire, parce que finalement, un retour, c'est pas si simple que ça. Même si la frontière qui était à passer, elle était limitrophe, elle est en Europe, elle est pas au bout du monde. Je suis privilégiée, je suis, pour me situer, je suis blanche aussi, donc c'est non pas non plus les mêmes histoires, mais il y a quand même un truc de... J'avais pris 100 000 fois cet avion, Paris, Berlin, ce train, ce bus, peu importe, mais cette fois-ci, j'ai vraiment senti un truc de « Ah, je laisse toute une vie derrière, et je sais pas du tout ce qui m'attend. » Et ça avérait que ça concordait avec un moment donné où il y a plein de trucs qui sont passés dans ma famille, ça a un peu explosé, et que du coup, j'étais là. J'étais là pour prendre ça en charge, donc je me suis occupée de ça pendant un temps. J'ai eu des soucis de santé. Enfin bref, ça a vraiment été une année où je me suis dit, oh là là, ok, c'est un retour en positif fort. Et donc voilà, donc ça a différé mon arrivée à Marseille. Et du coup, j'ai décidé de partir à Bruxelles comme sorte d'entre-deux, comme sas entre Berlin, Marseille. Et en arrivant à Bruxelles, j'ai rencontré une fromagère qui s'appelle Véro, et avec qui je suis devenue amie, et elle n'est pas très très bien, Véro. Donc j'ai commencé à lui demander comment ça va, pourquoi, nanana. Et puis elle a commencé à me raconter que sa fille sortait d'un Dust théâtre dans une université de l'Est de la France, à Besançon, et qu'elle et 6 autres de ses amies avaient porté plainte contre leur professeur de théâtre pour harcèlement sexuel, chantage sexuel et agression sexuelle durant la durée de leurs études, et qu'elles étaient à l'aube du procès, que le procès devait avoir lieu un mois plus tard. On est là, imaginez-vous, en février 2019. Donc, non, je dis quoi, 20. Covid, c'est 20, hein. Ouais, pardon. On est en février, mars 2020, là. Et donc, elle me dit ça, et on discute un peu et tout. Et là, moi, pendant 5 jours, je suis rentrée dans un état très particulier. J'ai pas arrêté de faire des rêves la nuit. J'ai eu une idée de projet, d'un film et d'une pièce de théâtre. Mais tout s'est écrit, en fait, dans ces 5 jours-là. Il y a quelque chose qui m'est tombé dans les mains, comme je me suis sentie agrippée à cette histoire, accrochée, pour plein de raisons différentes, parce que ça ressemblait, enfin je sais pas, le milieu social, j'avais fait une école de théâtre, je connaissais ce rapport au professorat qui peut être absolument dégueulasse, les violences sexuelles, c'est quelque chose que je connaissais, enfin il y avait beaucoup de choses qui m'agrippaient de l'ordre de l'intime, de qui j'étais, mais aussi de ce sentiment qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, et qu'il y avait quelque chose à proposer et à donner aussi. Et donc, voilà, et j'ai des rêves, et je vois dans un de mes rêves une jeune femme sur une scène de théâtre, habillée de rouge, qui donne des coups de poing dans un punching ball. Et je me dis, OK, théâtre, pièce de théâtre. Donc, je commence à réfléchir. Et là, vraiment, j'écris hyper intuitivement dans mon carnet des idées. Et j'arrive auprès de Véro et je lui dis, je pense qu'il faut faire quelque chose avec cette histoire. Elle me dit, moi aussi, je pense qu'il faut faire quelque chose avec cette histoire. Donc, elle m'a mis en lien avec sa fille. J'ai envoyé un mail. D'abord, j'en ai rencontré deux, Karine et Marion, à qui j'ai proposé un projet. Je leur ai dit, voilà, moi, je viens du documentaire. Je n'ai pas encore fait de réalisation, mais je veux passer à la réalisation. C'est compliqué de dire, votre histoire m'intéresse, parce que ça veut dire quoi, dire, votre histoire m'intéresse? Enfin, comment on saisit l'histoire des autres? Pourquoi on veut raconter l'histoire des autres? Qu'est-ce que ça raconte de nous? À quel point on est voyeuriste? Pourquoi? Comment? Donc, c'est compliqué, mais je leur raconte de manière très honnête et très transparente aussi ma démarche. Et je leur dis, je vous propose d'accompagner la procédure juridique de votre procès avec une caméra documentaire, donc avec une équipe documentaire. Et en parallèle, pour éviter de tomber dans un voyeurisme des faits, dans un misérabilisme aussi qui peut être très vite problématique, pour moi, il fallait créer un espace en fait, d'émancipation et un espace qui vienne contrecarrer cette procédure, dans laquelle elles auraient la possibilité de s'émanciper et de se saisir d'un outil pour ne pas être que des victimes. En fait. Parce qu'une procédure juridique, ça demande à l'autre d'être victime. Si tu veux gagner, si tu veux aller au bout, si tu veux être considéré en tant que victime, si tu veux une condamnation, tu dois rentrer dans ce moule-là et dans cette identité-là. Et c'est très puissant, c'est très fort, mais c'est aussi très enfermant. Et donc, pour moi, tout ça, je l'avais plus ou moins conscientisé aussi. Et du coup, je leur dis, bah voilà, je vous propose qu'on s'assoie ensemble à l'écriture d'une pièce de théâtre et je vais vous proposer un espace de très grande liberté. Donc, je vais mettre un cadre dramaturgique. Vous allez créer des personnages, on va raconter une histoire, pas forcément celle que vous êtes en train de vivre. Pour moi, c'était pas du tout nécessaire, en fait, de re-raconter ça, de le remettre sur scène, mais plutôt de créer un espace où elles viennent digérer toutes leurs émotions, en fait, enfin, tout ce qu'elles étaient en train de traverser, et de l'incorporer, et de le faire rentrer, en fait, dans le corps et dans la tête, et de raconter quelque chose via ça. Et c'est un espace de résilience, évidemment. Donc, je leur raconte ça, je sens que ça accroche. On leur avait déjà proposé des choses, elles avaient tout refusé. Et là, elles me disent, attends, on va en parler au reste du groupe. Et tout. Une semaine plus tard, j'ai tout le groupe sur Zoom devant moi. C'est un petit peu impressionnant, hein, tous les petits écrans de l'époque, tout le monde se rappelle, là, les Zoom à gogo qu'on faisait. Et là, je suis devant tout le monde, je repitche mon idée, ils se consultent un peu. Et puis, tout le monde dit oui, et on commence l'aventure. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Et le processus de fabrication de ce film commence. Et donc, moi, m'invente d'un coup, réalisatrice et metteuse en scène, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Hein. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui m'a pris? Et en même temps, je ne peux pas échapper à cette histoire, je ne peux pas sortir de ça. Je suis vraiment, genre, je sens qu'il y a un fil qui me tient à ce groupe en particulier, à cette histoire, à cette idée que j'ai eue, parce que j'ai l'impression que tout est là, en fait. Tout est déjà là. C'est comme si la trame du film, de la pièce, elle était déjà écrite, et que moi, j'étais un vecteur, que elles étaient un vecteur, que les espaces qu'on allait créer allaient être des vecteurs, pour juste aller chercher à la canne à pêche, là, toutes les infos de ce qui était déjà là. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est que, du coup, ben, moi, je rentrais d'Allemagne, donc j'avais aucun réseau en France. Donc, je me remets à essayer de contacter les gens, je trouve une chef opératrice, une preneuse de son. Je fais des cagnottes solidaires au début pour pouvoir avoir les premiers sous pour aller tourner, parce qu'en fait j'ai eu de la chance, le procès a été décalé de 6 mois grâce à la Covid, mais 6 mois plus tard il fallait tourner, et pour avoir de l'argent pour un film, ça met beaucoup de temps, donc je savais qu'il fallait que je me débrouille toute seule au début. Et donc je mets tout ça en place, en fait, et donc je commence à écrire des dossiers, je façonne ce projet un petit peu. Et donc, le premier tournage commence. Et là, on s'engage vraiment dans une un processus de travail en fait entre elle et moi. Je me permets là d'embrayer sur le film parce que du coup c'est aussi ce qu'on va voir derrière. Si jamais il y a plus de détails que vous voulez savoir de moi par rapport à ça, n'hésitez pas à poser des questions. Mais je pense que ça va, en soi, ça raconte beaucoup de choses sur mon parcours aussi, cette histoire. Et donc on commence ces tournages. Donc en septembre 2020, c'est le premier procès. Donc là, on arrive la veille avec l'équipe documentaire. On filme une scène que vous allez voir avec l'avocate qui brief le groupe la veille du procès. Et c'est 10 plaignantes en tout. Je me permets de dire, de conjuguer au féminin parce qu'il y a un homme et 9 femmes. Il y en a 4 qui disent non au projet. Au début, elles ne font pas partie de la même promo que les autres. Donc elles sont beaucoup plus éclatées, elles ne veulent plus rien avoir en lien avec cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe que je rencontre, il a une amitié toute particulière. C'est une amitié qui leur a permis de parler, qui leur a permis de rester solidaires, qui leur a permis de ne pas étouffer cette histoire. Et donc, voilà, c'est ce groupe-là que j'accompagne avec le film. Et donc, on a ce premier tournage qui se passe. Donc, c'est absolument désorientant d'arriver comme ça avec une équipe documentaire à la veille d'un des plus grands jours de leur vie où moi, j'étais pas personne n'était préparé en fait à ce qui allait se passer le lendemain. On est dans un degré d'intimité ultra fort. Donc il faut déjà comprendre que je plonge vraiment dans leur histoire. Elles me laissent plonger avec elles. Et il y a un premier pacte de confiance qui est conclu à ce moment-là. Et moi, je réalise le poids, la responsabilité que je prends aussi. Et ça ne me fait pas flipper, mais j'en ai ultra conscience en fait, de me dire que c'est très dangereux la position que je prends. Enfin, elle peut être très dangereuse. Il faut que je mesure exactement ce que je fais, comment je fais. Comment je prends en compte l'autre, en fait. C'est aussi ça qui joue beaucoup quand on fait du documentaire, c'est comment on montre l'autre, parce que l'autre se montre, mais il ne sait pas comment il est regardé. Donc, quelle position on prend en tant que réal, la position située du regard et de la perspective. Donc là, je réalise tout ça et je suis là, bon, ok, tant pis, on continue, quoi. Et après, ça s'enchaîne, en fait. En décembre, on commence la première résidence, je les emmène chez mes parents pendant une semaine, dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Je les réunis toutes, enfin tout le monde ne vient pas parce qu'il y en a une qui vit encore au Canada à l'époque. Adrien décide de ne pas faire partie du processus, enfin de la pièce de théâtre parce qu'il a acheté un appartement, il se met à le rénover et il me dit ça ce sera ma thérapie à moi. Et donc voilà, donc je me retrouve avec 5 jeunes femmes chez mes parents. Pendant une semaine, on déblaie en fait. Je fais venir des personnes de l'entourage de ma mère, des femmes, qui leur font... Il y a de l'hypnose, il y a du yoga, il y a des cours d'écriture. Je leur fais faire écrire tous les matins 3 pages de manière automatique dans leur carnet. Je mets en place un cadre qui fait qu'elles accrochent à l'écriture, en fait, pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Et surtout, on déblaye, on parle toute la journée. On parle. Elles me confient toute cette histoire, sauf que dès que la caméra est allumée, il n'y a plus un mot sur le procès. Donc, elles font un choix dès le début de me dire on ne racontera pas les faits. Et moi, je prends ça comme une décision, en fait, comme un choix qu'elles ont fait, que je respecterai jusqu'au bout, de dire ok, bah, on racontera différemment, en fait. Enfin, ça passera par le cadre juridique pour pouvoir raconter. Mais du coup, je comprends que la caméra sera témoin aussi d'autres choses. Enfin, elles reviennent sur les procès, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les détails, c'était ça mon attitude de départ, c'est que quand on traite des violences sexuelles, en général, quand elles sont traitées dans les journaux, quand elles sont traitées dans les documentaires, à la télévision, etc., on a besoin de s'approcher très très près des faits pour que les gens ils comprennent la gravité, en fait, pour s'imaginer ce que ça veut dire d'eux. Et quand on essaye de contourner ça, on a peur que les gens ne comprennent pas, en fait, le poids que ça peut avoir dans une vie, à quel point c'est déterminant, en fait, dans une trajectoire de vivre un trauma, de quelque sorte qu'il soit, d'ailleurs, mais celui-ci, dans ce cas-là en particulier. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, ça, c'est... Il va falloir composer avec ça, en fait. Et donc, suite à cette semaine, je réalise aussi... Enfin, j'avais déjà cette idée depuis le départ que, de toute façon, dans ce projet côté théâtre, il y aurait beaucoup de corps, parce que le corps est vecteur aussi de nos émotions, évidemment, mais c'est aussi là où se loge le trauma, puisque c'est l'appareil dans lequel on habite et dans lequel on vit. Donc j'ai l'idée de faire venir du corps dans la pièce, donc de la danse, de venir pas exprimer les choses que par des mots. Et c'est là où intervient Morgane Carsenti, qui est là ce soir, grâce à qui tout s'est fait, enfin bref, la connexion et tout. Parce que du coup, je cherche quelqu'un, une chorégraphe, qui voudrait m'aider à collaborer avec ces jeunes comédiennes pour leur enseigner une pratique du corps grâce à laquelle elles vont pouvoir et expulser des choses et exprimer des choses. Et donc voilà. Et donc ensuite, on travaille, on a une première semaine de résidence à Marseille. On a monté la pièce à Marseille, entre un local de résidence au début, après au Théâtre de l'Œuvre, jusqu'à le Théâtre des Carmes à Avignon, où on a eu notre première l'an dernier. Et donc on commence à travailler avec Morgane, on continue à travailler sur... Moi, je leur mets des contraintes dramaturgiques, il y a des personnages qui émergent, il y a des histoires qui émergent, alors ça touche beaucoup aux violences, évidemment, sans que ce soit celles qu'elles ont vécues différemment, parce que du coup, il y a des miroirs qui se mettent en place. Et du coup, on continue ce travail ensemble de va-et-vient entre les étapes de la procédure juridique, parce que le premier procès, ça veut dire 3 mois plus tard, premier délibéré, il a fait appel. Donc, après deux résidences sur la pièce de théâtre, il y a un deuxième procès. Il faut repartir une deuxième fois. C'est des journées qui sont très longues. La première journée de procès, elle avait duré 12 heures. La deuxième journée de procès, elle dure 15 heures. Il y a tout le matin, c'est pour l'accusé. Tout l'après-midi, c'est pour les parties civiles. Donc, elles passent toutes à la barre. Elles racontent leur histoire, chacune, les unes après les autres, avec une défense qui ne cherche qu'à minimiser ce qu'elles ont vécu, qui les accuse. Mon film s'appelle Les Menteuses, parce que elles sont accusées de mentir. En fait, c'est le seul moyen de défendre, c'est de dire que l'autre, il ment dans ces situations-là. Et donc, il y a un deuxième procès en septembre 21 octobre 2021, du coup. Un deuxième délibéré où il est condamné à de la prison ferme, 4 ans, dont 2 avec sursis, et une interdiction de mettre en scène à vie et d'enseigner. Ce qui fait jurisprudence en France. Ça veut dire que c'est une première fois qu'il y a eu ce jugement-là aussi. Donc c'est une petite victoire, parce que comparé à la gravité des faits, c'est pas grand-chose, mais c'est la première fois que ça arrive, donc il y a plutôt quelque chose qui se libère aussi. Et donc, suite à ça, il y a un espace qui se crée, et puis il faut continuer à monter cette pièce. Donc on continue à travailler sur cette pièce pendant encore 2 à 3 semaines l'année qui suit. Et ensuite, l'an dernier, en octobre, on a eu 15 jours de résidence au Théâtre des Carmes à Avignon, où là, on y est allé toute l'équipe, donc toutes les comédiennes sur place. Adrien, qui ne voulait pas faire partie de la pièce, il est venu pendant 5 jours. Toute l'équipe documentaire était là, parce qu'on a fini de tourner le film jusqu'à 2 minutes avant la première, sur le côté, en bas, avant qu'elle monte sur scène. Images que vous ne verrez pas ce soir, qui sont à la fin du film. Donc voilà, tout s'est enchaîné, ça a été le bouga. Et moi, là-dedans, c'est déjà 2 ans de travail. Je donne tout. c'est-à-dire que j'ai fait un choix aussi pendant 2 ans de savoir que j'allais galérer financièrement, parce que j'allais pas gagner d'argent, parce que la production, donc Zadig Production qui produit mon film, est arrivée quelques mois après le début du tournage. Je rencontre une productrice à Paris via quelqu'un qui avait entendu parler de mon film. Elle décide de produire mon film. Je me mets à l'écriture de dossiers. Ça dure un temps. On a des aides de Bourgogne-Franche-Comté. On a des aides de PACA. Mais tout ça, ça dure 1 an et demi. Donc l'argent arrive au compte-gouttes, permet de payer les techniciennes, permet de financer les tournages. Moi, je touche 0 € tout ce temps-là. Donc j'ai travaillé 2 ans et demi gratuitement. Je dis oui, gratuitement. Et en même temps, je sais que, je sais pas, il y a des moments dans sa vie où on doit tout donner à un endroit, parce qu'on sait aussi que c'est une ouverture derrière, et que de toute façon, moi, j'ai pas du tout le sentiment de sacrifice. J'ai trouvé des systèmes pour pouvoir me débrouiller à côté, de compensatoires, de jobs, etc. Enfin bref. Mais du coup, c'est ma condition économique durant tout ce temps-là aussi. Donc il y a vraiment un don de soi. On fait pas des films que comme ça, mais on en fait un peut-être dans une vie, ou peut-être 2 ou 3, ça dépend. Mais j'espère que le prochain, ça se passera différemment. Je pense que oui, parce que j'ai aussi appris de mes erreurs. Mais il y a vraiment un investissement chez moi, psychique, émotionnel, physique, financier, total. Quoi. Enfin, je suis mise au service de ce projet, plus que j'ai eu l'impression de... Enfin, oui, j'ai vraiment le sentiment là. J'ai eu le sentiment de mettre tout ce que je suis, tout ce que je sais, à disposition de ce projet, de ce film et de cette pièce de théâtre et des gens avec qui je travaille. Parce qu'on est un groupe... J'ai essentiellement travaillé avec des femmes, donc la productrice, la monteuse, la chef-op, les preneuses de son. Le premier homme qui est intervenu dans ce processus, c'est le graphiste et le dessinateur. Ce qui arrive, il y a de l'animation dans mon film qui arrive un peu tard, Donc c'est très loin dans le processus de fabrication, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'avais travaillé essentiellement avec des femmes avant aussi, et c'était des processus qui, moi, m'intéressaient beaucoup, qui sont évidemment des processus très intimes, parce que quand on travaille entre nous, tout ce qu'on fait résonne dans les histoires des unes et des autres, donc on se met à parler, donc la parole se distribue aussi comme ça, on est aussi dans une transmission, moi j'ai quelques années de plus que les protagonistes, donc je suis aussi dans une position où je peux leur transmettre des choses que moi j'ai vécues, dont j'ai fait l'expérience et que je peux redonner en fait. Donc ça a été vraiment un... Et je suis aussi un écran pour elles. Enfin, j'ai une place toute particulière dans leur vie sur ce temps-là. C'est pas forcément simple parce que au début, je pense que c'était un peu « Ah, waouh, trop bien, enfin, tu nous proposes un cadeau, tu nous fais quelque chose. » Et puis après, je suis rentrée dans leur intimité aussi. Le travail qu'on a fait, il a été intense, intime. Il est venu bouleverser beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui demande beaucoup... Enfin, on a travaillé sur la pièce pas à demi-mot. Je suis quelqu'un qui est très travailleur, donc on a travaillé au cordeau et j'ai demandé beaucoup d'intensité aussi. Donc ça a soulevé aussi plein de choses. Donc nos rapports ont changé avec le temps aussi. Enfin, moi, j'ai tenté de garder une juste distance avec tout le temps du projet pour pouvoir rester à ma place. Elles avaient très peur aussi du résultat parce que, évidemment, quand on est filmé aussi longtemps, il y a un temps de sa vie qui défile et puis on ne maîtrise plus rien. Donc c'était tendu sur la fin, les derniers jours de tournage aussi, parce qu'on était en fin de production de la pièce, qu'il y avait la première et tout. Mais que je sentais qu'il y avait ce truc-là, en fait. C'est que moi, je leur ai promis, je leur ai dit, moi, je pars en montage avec vous toutes en salle de montage. Pas dans le sens où vous venez physiquement, mais je vous emmène avec moi, parce que j'emmène vos intimités, vos peurs, vos représentations avec moi pour être juste dans comment je les représente, parce qu'il est hors de question que je vous expose à quelques dangers que ce soit et que j'expose des choses de vous qui pourrait vous fragiliser aussi, parce que j'en avais conscience aussi, et je pense que c'était aussi un souci. Et donc, on passe au montage, et donc le montage a duré longtemps à Paris. On a dépassé largement le quota de temps qui nous était alloué. Aussi parce que j'ai monté avec une super monteuse qui s'appelle Catherine Sins, qui est une ponte du montage un peu en documentaire, qui a 72 ans. Et qui, du coup, avait son propre rythme à elle, avec ses propres difficultés, etc. Donc, ça a été une toute autre relation aussi à réapprendre. J'avoue que moi, je m'attendais un petit peu à arriver en montage à me dire « Ah oui, il y a le fameux mythe du montage qui dit « Oh, la réelle peut se poser un peu dans son fauteuil et puis laisser évacuer sa propre folie. » Non, ça a été un peu l'inverse. Donc, il a fallu que je tienne les rênes jusqu'au bout. Voilà, ça a été aussi houleux de ce côté-là. Mais on a fini le film en janvier là, de cette année, et il y a eu la post-production après à Aix-en-Provence jusqu'à la mi-mars. Ce film est terminé. J'ai fait 2 versions. Il y a un 65 minutes qui est pour les festivals, et il y a un 52 qu'on rend à France 3, qui va être diffusé en région, plusieurs régions différentes à partir de novembre. Et peut-être sur LCP, la chaîne parlementaire, et qui aura peut-être une vie ensuite, on verra bien. Donc on est en train d'entrer dans la phase de diffusion. L'affiche a été faite aujourd'hui, donc je suis un petit peu excitée. Et les avant-premières arrivent. Donc les avant-premières, c'est l'occasion de... Les protagonistes ont vu le film. On a déjà fait une preview, comme on appelle ça, à Paris. Donc c'était ultra particulier, parce que moi, évidemment, c'est ce moment qui me tient pendant toutes ces années. Je me dis, pour pas lâcher, les moments donnés où j'ai voulu abandonner parce que ça demandait trop, j'étais là, je voyais, il y avait ce truc-là, il y avait cette lumière, le petit phare là au loin, qui me disait un jour tu leur montreras le film, un jour on sera ensemble, un jour ce sera terminé. Et donc je leur montre le film à Paris en mars là. Et évidemment je m'étais fait la scène 250 millions de fois dans ma tête, ça n'a rien à voir avec comment ça s'est passé. Tout le monde était là, oh mais mon nez il est trop gros, oh mais moi je suis pas belle, et j'étais là. Ah d'accord, ok, bon, ok. Alors, donc le film en fait qui a été fait, vous n'allez pas pouvoir le voir avant d'avoir vu 10 fois vos têtes et de vous être habitué au fait que vous voyez vous et qu'elle ne pouvait pas du tout comprendre en fait le propos du film, ce que ça raconte, ce que ça traduit, que quand on est personnage de documentaire, de fiction aussi, mais en documentaire particulièrement, on est aussi vecteur vers l'intimité des gens. Moi, je l'ai vécu avec les films que j'ai accompagnés avant. Quand on rencontre un public, on rencontre sa propre histoire. En général, il oublie un peu ce qu'il vient de voir, mais ça lui a parlé, quand ça lui a parlé, et donc il raconte lui-même. et que c'est ça en fait, moi je pense qu'elles n'ont pas encore saisi, et aussi ce qui m'intéresse dans la rencontre du public et dans l'espace de diffusion, c'est qu'est-ce que ça va raconter aux gens et qu'est-ce que ça va permettre en fait, parce que c'est un outil ce film, c'est un vecteur vers des histoires, elles ne sont plus leurs, enfin ce qu'elles ne voient pas c'est que ça dépasse complètement leur intimité en fait, c'est quelque chose de sociétal, ça vient raconter autre chose et qu'elles sont des écrans pour ça aussi. Donc le jour de la le jour où elles ont vu leur tête, quoi. Moi, j'ai halluciné. Alors, elles ont ri, elles ont pleuré parce que on se revoit entre, elles se revoient entre leurs 24 et leurs 27 ans. C'est trois années assez charnières aussi physiquement. On perd cette enfance en fait et on entre dans l'âge adulte. Donc, il y a quelque chose qui se voit. C'est assez frappant la différence du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est des endroits de leur intimité qu'elles ont complètement oublié en fait. Enfin, il y a eu le cerveau, il a fait quick, il a séparé pour pouvoir avancer. Donc tout d'un coup, on se rappelle de tout ça, donc ça vient évidemment soulever des choses qui ne sont pas forcément simples à gérer derrière, mais que j'avais un peu anticipé pour mettre en place tout ça. Mais aussi ce truc que moi j'ai halluciné, où je me suis dit, bah oui, c'est vrai, je me rappelle les premières fois en tant que comédienne, quand je me suis vue, je me suis dit, oh mais c'est horrible de se regarder, c'est affreux, pourquoi on fait ce métier si on n'est pas capable de se regarder derrière en fait, enfin, et vraiment ce jour-là, c'était hallucinant, quoi. C'est que le physique, que les attitudes, ils se trouvaient horribles, absolument insupportables, trop machin, trop truc. Il n'y avait rien du film, rien de leur histoire, c'était juste eux, quoi. Et donc je me suis dit, mais c'est bien, peut-être que c'est une première amorce pour la suite aussi. Et donc là, ces fameuses avant-premières qui nous attendent, ben, c'est la rencontre avec le public. Donc, c'est-à-dire ce que le public aura vu, les rencontres, que les familles viennent aussi. Les amis, tous les gens qui ont contribué à ce film, qui sont de près ou de loin très investis, parce que ça a été un travail très collectif aussi. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut beaucoup de gens, il faut beaucoup de temps. Voilà. En gros, c'est la dernière étape pour le film qui commence. C'est une étape un peu excitante, mais c'est aussi une étape ultra flippante, parce qu'en fait, je m'expose à fond, parce que c'est mon travail. Donc là, c'est pas moi qui accompagne le travail des autres, c'est le mien. Et ça, c'est ugly. Je me prépare un petit peu à tout ce que ça va pouvoir générer aussi de va-et-vient, et avec mon ego, et avec le travail que j'ai fait, et avec des incompréhensions, et avec des choses qui vont être belles, et avec des choses qui vont être difficiles. Et puis ça vient toucher évidemment au trauma et au VSS, donc probablement avec des récits, avec des témoignages, avec des choses qui vont pas être simples à porter, mais ça planifie de mettre quelque chose en place aussi, de manière thérapeutique, pour que quand les filles sont là, il y ait cette barrière qui puisse se mettre entre l'expérience de l'autre et la sienne, parce que c'est bien de ne pas coupler tout ça. Donc voilà, pour moi, ce travail, il a été un travail émancipateur du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que je me suis fait confiance, j'ai cru en une idée que j'avais eue, et j'ai pas lâché jusqu'au bout, mais jusqu'à la dernière miette de ce que... Et puis en plus, je suis perfectionniste, donc c'était une catastrophe pour moi à la fin, j'étais en mode obsessionnel de pas lâcher. Mais ça a été vraiment, je suis devenue quelqu'un d'autre, mais enfin surtout, je pense que je suis devenue qui je suis. C'est-à-dire qu'avant, j'étais encore engoncée dans énormément de choses qui me tiraillaient, avec des insécurités, un manque de confiance en moi monumental. Et qu'en fait, étape après étape, je suis sortie de ça aussi parce qu'on m'a fait confiance, que je me suis fait confiance, que j'ai mis un travail en place qui est en fait une énorme cathédrale, je m'en suis rendu compte à un moment donné, qui est une grosse structure, avec, c'était une énorme équipe. Tout d'un coup, j'avais plein de gens à qui je travaillais, j'étais là, oh, tout ça c'est venu d'une idée à qui j'ai fait confiance et que j'y suis allée et je me suis dit, waouh, good job. Et franchement, je ne me le dis pas souvent, donc je me permets ce sort d'un peu genre assumer ça, parce qu'en fait, ouais, si, carrément, il y a un moment donné où quand on se fait confiance et qu'on fait les choses, bah franchement, ça fait du bien, quoi. Enfin, et qu'aujourd'hui, je suis, ouais, j'ai des envies, des désirs, et je sais que j'en suis capable, en fait. Après, on verra bien ce qui va se passer, mais voilà, quoi. Donc, moi, ce projet, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été une crêpe qui se retourne, c'est-à-dire, je me suis donné une chance, je me suis autorisée à prendre ma place, quelque part, et d'aller jusqu'au bout, et on m'a fait confiance, et j'ai eu la chance de, même si le projet a été compliqué, complexe, etc., mais vraiment, genre, ouais, c'est un parcours qui m'a permis de découvrir que j'avais une force, et qu'elle était assez grande, et que du coup, j'allais pouvoir faire d'autres choses après, quoi. Et ça m'a sorti de plein de choses. Moi, j'ai eu des gros épisodes dépressifs dans ma vie, ça m'a complètement sorti de ça aussi. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont réglées en faisant, en étant active, en étant en mouvement, en travaillant avec d'autres, évidemment, en jaugeant qu'on ne peut pas tout contrôler. Et donc, il faut énormément faire confiance aussi et aux étapes et au temps et au rythme. Et que si on lâche prise, parfois, c'est genre magique ce qui peut se passer. Et ça m'amène à mon dernier point, à propos magie. J'avais un peu fermé la porte du jeu parce que pour moi, être comédienne, c'était en Allemagne. Mon agent est en Allemagne. J'ai joué principalement qu'en Allemagne. Et donc, je n'avais pas eu de proposition pendant 3 ans. Et 2 jours après la fin de la prospection de mon film, mon agent m'appelle et me dit « T'as une proposition de casting pour un gros truc en Allemagne. Est-ce que ça te dit de le faire ?» J'étais là « Bon, ok, d'accord. Ouais, pourquoi pas. » On m'envoie la proposition, j'envoie une première vidéo, ça marche, on m'invite au premier tour. Je lis le scénario, je trouve que c'est pas bon du tout. Je me dis « Oh là là, non, pas du tout envie. » Je le dis à la réal, direct. Je le dis « Je te préviens, je trouve que le scénario, je comprends pas. En fait, vous voulez raconter quoi ? Je sais pas. » Donc là, on a une longue discussion. Du coup, elle me dit « Non, mais viens quand même au casting. » Et tout. Je dis « Ok, bon, j'y vais. » Donc j'ai un premier casting à Berlin en début juillet. Et là, du coup, comme j'ai pas d'attente, comme je suis pas dépendante de ça, parce que j'ai fait un film et que du coup, moi, j'ai envie... Enfin, la réalisation, c'est quelque chose que j'ai toujours désiré et c'est vers là que je tends. Du coup, j'ai beaucoup moins de pression, j'ai beaucoup plus confiance en moi, donc en fait, je vais pas laisser l'autre décider si ça va ou si ça va pas. Donc j'ai pris l'espace de jeu et je me suis grave fait plaisir pendant 3 heures des castings, c'était trop bien. Je suis sortie, j'étais là, youhou ! Et en même temps, sans vraiment me dire, genre, ça va se passer. Enfin, j'ai fait le job, je suis partie, j'étais contente, c'était bon, quoi. Il s'avère qu'on m'a rappelé il y a 3 semaines, donc je suis retournée à Berlin pour le dernier tour de casting et j'ai eu le rôle. C'est un rôle principal, c'est une énorme production, c'est un énorme truc. C'est un gros truc, enfin, les conditions sont juste... c'est la première fois que quelque chose d'aussi grand... Enfin, non, parce que ce que je viens de faire, c'est très grand, mais ce que je veux dire, c'est dans un cadre où c'est pas une production indépendante, où il y a de l'argent, où il y a... vraiment, genre, tout est ultra réglo. C'est un gros truc en plus qui est super attendu, c'est l'adaptation d'un roman qui a fait un carton en Allemagne, enfin... J'ai le rôle principal, je suis là, je ne comprends pas vraiment. Et en même temps, je me dis, si, en fait, j'ai fait le taf. J'ai l'impression d'avoir fait le taf. Mais pas que au moment du casting. J'ai tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis arrivée à cet endroit où, en fait, j'ai plus envie qu'on me dise, j'ai plus envie, je sais plus à qui je le dis. Enfin, je l'ai dit beaucoup ce soir avec Morgane, on en parlait avec quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression d'attendre très longtemps dans ma vie qu'on vienne me chercher et qu'on me dise, tiens, je te mets à ta place. Ça, c'est pour toi, et qu'on vienne me prendre par la main et qu'on me dise tiens, c'est ici. Jusqu'à ce que ça marche pas, ça, donc non. Et que, jusqu'à ce que moi, en fait, je décide de saisir un endroit et d'aller la créer ma petite place, en fait. Et qu'à partir de ce moment-là, là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et je suis là, ah ok, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire, mais fais-toi d'abord, fais les choses, et puis après, tu verras bien toutes les graines que tu as semées sur la route, peut-être qu'elles germeront, peut-être pas. Mais en fait, il n'y a plus personne, je ne veux pas attendre de qui que ce soit, quoi que ce soit, en fait. C'est à nous de faire, c'est à nous de saisir, c'est à nous de mettre en place, c'est à nous d'essayer de construire cette société qu'on a envie. Enfin, je ne sais pas, politiquement aussi, pour moi, c'est très important, en fait, de ne pas être soumis à un système qui décide pour nous et d'essayer de, quand on a les moyens, quand on peut, et quand on peut aider ou se faire aider, de mettre ça en place. Et que j'ai l'impression que là, justement, je suis dans une période où il y a... Je suis un peu en train de récolter en fait les fruits de tout ce parcours-là, qui a aussi été long, périlleux, difficile, pas du tout droit, avec beaucoup de va-et-vient, mais que j'entre dans un truc de sérénité, non seulement ça, mais en plus de grosse excitation, parce que c'est ça qui est génial, c'est que ça génère de la joie de ouf, et qu'en fait ça, elle est super motrice en fait cette joie-là, parce qu'elle est exponentielle en fait, et que du coup elle crée des espaces de pensée et de création qui sont très forts et que voilà. Et que je me suis mis à l'écriture d'une fiction aussi parce que je me suis dit que j'allais quand même pas attendre qu'on me dise quand est-ce que j'allais faire mon prochain film, j'allais m'y mettre. Donc voilà. Le bilan de ce travail, c'est... je pense que c'est... Il y a un moment donné, quand les choses elles nous arrivent, elles commencent à devenir notre vie, en fait. Donc, pour elles, ça fait complètement partie de leur existence. Elles ont 27 ans aujourd'hui, elles ont passé 3 ans sur ce projet. C'est 8 ans de procédure juridique. Donc, en fait, le bilan, c'est... On est allé jusqu'au bout. Chacune est encore en train de dealer, parce que ce qui est pas, c'est sous-entendu dans le film, mais les faits les plus graves n'ont pas été reconnus. Donc en fait, là on parle de chantage sexuel et de harcèlement sexuel, mais il y a eu agression sexuelle. Ce sont des viols recaractérisés parce qu'elle ne voulait pas aller aux assises seule. Enfin, il faut prendre aussi en compte qu'il y a des parcours où il y a des tentatives de suicide. Enfin, c'est des parcours lourds au niveau psychiatrique aussi. Donc pour certaines d'entre elles, ça va beaucoup mieux. Pour tout le monde, ça va beaucoup mieux. Après, c'est des existences qui sont toujours sur des fils aussi. Donc, je dirais que le bilan individuel de cette expérience, c'est quelque chose, je pense, qui a bouleversé, en fait, leur rapport à cette histoire. Parce que je ne serais pas venue, en fait, il y aurait eu une procédure juridique et basta. Donc, c'est-à-dire, elles auraient été engoncées dans ce système-là, sans possibilité d'en sortir, parce que c'est là où l'État faillit complètement, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement, en fait. Il y a des procédures juridiques qui sont extrêmement violentes dans ce que ça nous ramène à traiter de menteuse pendant toute une journée sur des faits que tu as subis dans ton propre corps, dans ta chair, dans ton âme. Enfin, c'est ça dont on parle, en fait. Donc, je pense que le projet en soi, l'idée de ce film, l'idée d'agripper à un moment donné, l'idée de venir transformer via le théâtre, via le corps, via la danse, tout un espace d'émotions, le fait de faire corps, de faire groupe encore jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est un groupe de potes qui existe, qui est encore un groupe très, très soudé. Mais évidemment que ce projet, ça les a rassemblés aussi à des endroits. Et puis, il y a évidemment des dissonances. Hein. Il y a évidemment... Ça a été à la fin, on n'en pouvait plus toutes. Hein. On n'avait qu'une envie, c'était ne plus se voir pendant au moins 6 mois. Parce que c'était genre... on n'en pouvait plus des unes et des autres. De cette histoire qu'on se trimbalait, de ce truc qui devait accoucher. Parce qu'on a accouché de cette pièce, mais il y a eu moi le film aussi en plus. Et puis après, moi, j'ai tissé des liens avec les unes et les autres qui étaient complètement différents. Il y en a une qui habite à Marseille. Maintenant, elles sont 3 à Marseille. Donc évidemment, la distance a fait qu'on a tissé des liens plus forts qui fait que je sais pour elle quelle est la place de ce projet. Il y en a une avec qui ça ne s'est pas très bien passé sur la fin parce que je pense que le rapport qu'on avait ensemble qui a commencé très fort, en fait, elle a eu un cheminement particulier aussi ensuite. Donc c'est des choses dont on a pu discuter aussi. Mais du coup, ce n'est pas... Déjà que c'est ni tout blanc, ni tout rose, ni tout noir. Enfin, voilà, c'est comme tout, quoi. Moi, je dirais qu'on a fait un... Enfin, quand on en parle là, maintenant, parce qu'on sort, il faut aussi... Imaginez-vous, on a créé une association pour pouvoir porter la pièce. Donc, on a eu tout un cadre administratif aussi à gérer. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'investissements personnels aussi pour des choses qui nous ont paru gigantesques aussi à cette époque-là. Mais à la fin, on est arrivé essoufflé, en fait. Donc, je dirais que le bilan, il est, je pense... à faire dans 2 ou 3 ans, ou une fois que la diffusion sera faite, où elles vont pouvoir, elles, revenir sur ce parcours et commencer à en parler. Parce que moi, je l'analyse beaucoup. Je suis dedans, je suis celle qui a tiré les cordes. On me demande beaucoup où j'en suis. Pour elles, c'est vraiment genre encore très individuel. Donc je pense que le moment du bilan, il va venir là, de se rendre compte qu'elles ont traversé tout ça, qu'elles ont fait tout ça. Parce que ce que vous ne voyez pas dans le film, c'est qu'il y a vraiment un truc où elles sortent d'elles-mêmes. Enfin, il y a un... À la fin, là, 5 minutes avant la première, c'est pas les mêmes corps, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même engagement. Elles sont toutes en costume, maquillées. Ça envoie dur au niveau du théâtre. Enfin, voilà, il y a un truc qui est magnifique aussi parce qu'il y a des personnages qui sortent. Donc, je pense que moi, le bilan, je pense qu'il est très positif de manière générale aussi parce que quand on fait des choses ensemble et qu'on se donne les moyens, ben, il se passe des choses. Mais qu'évidemment, à l'échelle individuelle, c'est très mitigé pour tout le monde, en fait. Mais pas, ça veut rien dire. C'est ni positif ni négatif. C'est juste, c'est une expérience collective. Donc, c'est compliqué. Donc, ça amène plein de choses, plein de complexités, quoi. Et ben lui, il a acheté un appartement, rénové son appartement, récupéré un chien à la SPA. Il s'est marié avec son mec et ils ont ouvert un studio de tatouage. Ça, c'est ce qu'il a fait pendant les 3 ans. Nous, on a fait le reste. Et donc, voilà, ça a été sa trame à lui. Comme il dit, j'ai installé une vie d'adulte, quoi. Il s'est même acheté un kangou aussi. Donc vraiment, il y a eu ce truc-là, il y a eu ce truc de besoin de s'ancrer à un endroit. Il est sorti de Besançon, ils ont acheté à Saint-Lin-les-Bains dans le Jura un appartement qu'ils ont retapé pendant 1 an et demi. Enfin, il s'est mis vraiment, genre, il a mis la main à la pâte lui aussi à un autre endroit. Il voulait pas faire la pièce pour ça aussi parce que il pouvait pas faire les deux, donc il a fait ce choix-là. Et aussi, je pense que intuitivement, il a laissé la place à ce groupe de jeunes femmes. En fait, c'est très étrange, mais il s'est passé un truc du genre, il est pas venu chez mes parents. Et donc, moi, je lui ai dit, soit tu t'impliques, soit tu t'impliques pas, mais tu me le dis maintenant parce que là, on est en train de poser la suite. Il m'a dit, bah, je peux pas à cause de l'appartement, mais c'est venu créer la pièce qu'on a faite, en fait, maintenant. Qui aurait pas été la même, et bon, évidemment que non, mais je veux dire, ça a créé cet espace uniquement pour elle, je dirais. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a tortillé à cet endroit-là. Pour ce qui est, ce que je peux juste dire pour lui, c'est que donc au premier procès, il y a eu relax pour les faits les plus graves dans le cadre de deux plaignants, donc on ne voit pas ici dans le film, et dans le deux, donc à l'appel, il y a relax pour une des faits les plus graves qui concernent une des protagonistes du film, et aussi pour Adrien, il y a relax total pour les faits qui le concernent. Donc en fait, lui, il est pareil, considéré comme n'ayant rien vécu. Alors que de manière générale, le professeur a été condamné dans l'ensemble des faits. Donc on considère que la peine englobe les faits pour lesquels il n'a pas été condamné, mais ça, c'est des trucs de droit, en fait. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'en fait, il se retrouve faisant partie d'un processus collectif et non reconnu à l'échelle individuelle, quand même. Donc ça, c'est dur. Ouais. Tout le monde a voulu partir, au moins une fois. Il y en a une, là, Elsa, qui part. En plein milieu de processus, elle part parce qu'elle ne peut plus faire de théâtre. Donc elle part parce qu'elle se protège. Elle décide de... Ce n'est pas dit dans le film, je vous le confie ce soir, mais elle est partie en HP pendant une semaine parce que ça n'allait pas du tout, en fait. Et elle s'est rendue compte qu'il ne fallait plus qu'elle mette un pied sur un plateau de théâtre pendant longtemps, en fait, pour se protéger, parce qu'elle était encore complètement... ça l'a retraumatisée, en fait. Donc elle a arrêté, mais elle a pris une décision pour elle. Elle a dit, je ne veux plus faire de théâtre, donc j'arrête cette pièce. C'était pas genre, j'en ai un ras-le-bol de ce projet, c'est moi, je peux... Et moi, j'ai pris ça comme un putain de bond en avant, en fait, pour elle. C'est-à-dire, je suis capable de dire non, je suis capable de dire stop, je suis capable de prendre en charge la responsabilité de ma propre life, en fait. Et du coup, je me suis dit, chapeau, en fait. Et du coup, on s'est retrouvés, premier jour de résidence d'une semaine qui commençait, avec un texto à 9h59 le matin, on commençait à 10h, elle n'avait pas pris son train, on ne savait pas où elle était, on a fait « ok ». On s'est assise à table, on a fait un tour de ronde. On a beaucoup fait cette pratique-là à chaque fois. C'est commencer la semaine par un tour de comment chacune va, comment chacune se positionne, et histoire de lâcher un petit peu le lest de nos situations privées et tout. Et du coup, on a fait un tour et j'ai dit, écoutez, si on enlève son personnage dans le texte, qu'est-ce que ça donne ? Et on a fait lecture sans le personnage et ça a très bien fonctionné. Et toute la semaine, on a laissé une chaise vacante, symboliquement, jusqu'à ce que ce soit possible de l'enlever pour elle. Et du coup, de manière très symbiotique presque, c'était presque intuitif, en fait. Elle s'est extirpée sans que c'ait été très douloureux pour tout le monde, en fait. Et ensuite, elle est arrivée en fin de semaine, donc elle nous a rejoint toute la fin de la semaine, juste pour le week-end. Donc elle était avec nous. Et ensuite, à Avignon, donc entre-temps, comme moi, vous l'avez pu le voir, on s'est coupé les cheveux très courts toutes les deux. Enfin, moi, j'avais quand même rasé, elle s'était coupée les cheveux courts. Et du coup, je lui ai proposé une autre position. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux venir accompagner les derniers moments de création de la pièce ? Donc, en tant que... tu peux aider avec les costumes, tu peux aider avec tout ce que tu veux. Donc, elle est venue les dernières semaines de créa avec nous, tout le temps, avec l'équipe. Elle a aidé à plein de trucs. Et il y a une voix, vous ne l'avez pas vu dans le film, il y a une voix qui annonce le début de la pièce. Et c'est sa voix, elle, qu'on a enregistrée. Parce que comme ça, ça lui donnait une place aussi. Voilà. Donc, il y a Elsa qui a voulu partir. Et je pense qu'à chaque résidence, on a toutes voulu faire genre, non, mais c'est bon, on arrête là. Et on a tenu. Voilà. Et là, il y a Marion, à la fin, toute la fin. On a joué 10 fois cette pièce ensuite entre Paris et Marseille. Et il y a 4 mois, là, en début d'été, elle a décidé d'arrêter le projet. Parce que c'est trop compliqué pour elle d'être avec le groupe comme ça, aussi tout le temps. Mais aussi parce que je pense qu'elle était en train de prendre une autre direction au niveau du théâtre. Et qu'elle voulait plus travailler dans ça, quoi. Et du coup, pareil, elle a pris une décision. Et du coup, Elsa, qui est partie, va reprendre le rôle. Voilà. Moi, je considère que bon, nos équilibres, c'est comme des camemberts, quoi. Il faut qu'il y ait des petites parties réparties partout. Et que je pense que si on a... on est bien accompagné aussi à côté, dans l'intime, que ce soit la famille, les potes... les gens qui sont présents dans nos vies en dehors de ce qu'on fait, en fait, qui nous racontent d'autres histoires, qui nous ramènent à la réalité, qui nous parlent d'autres choses. Ça, c'est ultra important d'en avoir. Moi, j'ai une pratique physique forte. Enfin, je fais du kundalini, je fais de la boxe, je nage, je fais du vélo. Enfin, j'ai besoin de bouger pour digérer tout ce que mon cerveau produit comme information et aussi pour... quand on fait du documentaire, on filme le réel, donc on est touché par ce qu'on regarde aussi, et ça nous envahit, mais il faut arriver à le sortir, en fait, il faut arriver à le recycler aussi. Donc pour ça, c'est chacun sa technique. Là, moi, personnellement, j'ai des pratiques qui sont comme ça, j'ai des rituels, Et puis, faut savoir débrancher. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien apprendre mieux la prochaine fois. M'autoriser à dire une journée, ça commence à telle heure et ça se termine à telle heure. Et le soir, en fait, parler d'autre chose. À la fin, j'étais vraiment en mode obsessionnelle sur mon film. J'ai pas arrêté du matin jusqu'au soir. J'en rêvais la nuit. On avait plus de séparation des temps avec la monteuse. Enfin, c'était vraiment genre, j'étais dedans. Ce qui m'a permis d'arriver, je pense, à un point de précision aussi de ce que je voulais dire. Mais ça m'a coûté très cher, moi. Et je pense que du coup, la prochaine fois, je me mettrai des limites, en fait. Je pense que c'est ça. Savoir qu'on entre dans un... C'est un métier, c'est un travail. Et comme tout travail, comme tout métier, ben, il commence et il s'arrête. Et donc, il faut faire d'autres choses que ça aussi. Et que c'est possible, en fait, d'être aussi impliqué, mais de prendre aussi de la distance. Et qu'aujourd'hui, par exemple, là où je me mettais des plages horaires de malade de journée, ce taf-là, ça se fait aussi en 5 heures plutôt qu'en 12. Il faut savoir se dire que, en fait, on est aussi... Parce que plus on se met de temps, plus on se perd et plus on teste, etc., plus on se met la contrainte du temps et plus finalement... Alors, j'aime pas le mot efficacité parce que c'est ultra capitaliste aussi, mais il y a un truc de... Bah, on a cette contrainte-là, donc il faut le faire dans ce temps-là aussi. Donc, je mettrai ça. Je prendrai des vacances. Entre-temps. Enfin, vraiment, genre, il faut s'éloigner de son sujet. Il faut s'éloigner de son objet. Il faut s'éloigner de ce qu'on fait pour y revenir d'autant mieux, en fait. Donc, ouais, prendre en milieu de processus, franchement, ne pas hésiter à prendre, si on peut, si on en a les moyens, évidemment, financiers, et si c'est possible, mais genre s'éloigner, faire autre chose et complètement couper le lien. On perd rien à ça, on gagne tout, en fait. Le corps et l'âme, elles se reposent, et c'est très bien, comme ça. Ça, ce serait vraiment pour moi la chose différente à faire la prochaine fois. Pas y aller comme une bête franchement... Bah déjà, le rôle que je vais avoir l'an prochain, pour le coup, j'aime pas trop le scénario parce que c'est vraiment un truc, c'est léger, quoi, en fait. oui, et donc ça va être super parce que ça va être léger aussi. Et que ça va me faire du bien parce que, ouais, je vous ai raconté un peu mon parcours et tout. Et que, ben, la fiction sur laquelle je travaille, il y a beaucoup de léger, mais ça accroche le réel, on va dire. Mais du coup, il y a énormément d'humour, en fait. Moi, ce qui nous a porté aussi dans ce projet, c'est que ce groupe-là, on peut être spectateur pendant 3 heures de leurs idioties. Enfin, vraiment. Ils ont des personnages entre eux. Enfin, ça circule. Ils font des blagues tout le temps. Ils sont en surproduction. Et en fait, ça nous a fait du bien parce qu'il y avait de l'humour, il y avait beaucoup de ventiles. Enfin, il y avait beaucoup de... Enfin, il y a de l'air qui a circulé quand même, quoi. Et moi, je me suis rendu compte qu'à travers tous ces projets lourds que j'avais faits, j'avais aussi perdu une partie de mon humour et de ma légèreté. Et qu'en fait, j'en ai une grosse de légèreté et que j'en sais rien si mon humour est drôle. Enfin, ça, c'est pas moi d'en juger, mais ça fait du bien, en fait, de récupérer ça. Et que là, je suis en train de le récupérer et que du coup, dans l'écriture là, de la fiction, en fait, je me marre et ça fait trop du bien dans la ruche. Ah, mais c'est tellement drôle. Je suis allée voir mon ostéo cet après-midi parce que j'ai fait une sale chute sur le dos il y a 2-3 semaines. Enfin, bref, je vous ai parlé des détails. Mais du coup, j'ai pensé à un détail pour la fiction, mais du coup, j'ai éclaté de rire en plein milieu de la manipulation. C'est ça, en fait, qui me plaît dans l'idée de l'après. C'est de pouvoir se marrer sur ce qu'on fait parce que on peut traiter de sujets difficiles et avoir complètement une distance, une légèreté. Enfin, moi, c'est ce à quoi j'aspire, en fait. Arriver à être dans le dur, dans le concret, dans la réalité de nos vies, de nos existences, surtout dans l'époque qu'on est en train de traverser, qui est ultra, ultra, ultra violente. Et en même temps, arriver à insuffler en fait, encore de la joie, encore de l'humour, encore de la légèreté, parce que c'est ça qui nous porte aussi collectivement. Non, bah, merci pour votre écoute. Hein. Merci.